Bonjour Julien, première question très classique. Prénom H-Club.
Et ben moi, je m'appelle Julien Vidal et j'ai 30. Attends, il faut que je réfléchisse. J'ai 35 ans et mon club, c'est l'Olympique Lyonnais.
Est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir de foot?
C'est aussi, ça m'a vachement marqué, ça, en 1998. Du coup, j'avais 13 ans et mes parents habitent un peu au-dessus de la ville, à la limite d'une colline et de la forêt. Et je me rappelle encore me dire, mais c'est fou parce que la ville, elle est quand même assez loin et j'entendais les klaxons, j'entendais les gens hurler. Quand on a été champion du monde 98.
Une question très générale pour commencer. Est-ce que les footballeurs sont écolos?
Non, non, non. Bah, c'est sûr que les footballeurs sont pas écolos et même ça fait partie un peu de ces sports hors sol. Je pense que c'est dans les infrastructures, dans les vocations des sujets sociétaux peut-être de plus en plus sensibilisés. Et puis en plus parce que souvent c'est des jeunes qui viennent de quartiers, on va dire, plus vulnérables, mais sur la relation à la nature, sur l'effondrement des écosystèmes, la sixième extinction des espèces en général, c'est du chinois. Donc, dans les sports co, le seul qui me vient en tête comme ça, qui s'était un peu positionné, c'était Nicolas Karabatic du hand, qui, du coup, lui avait dit qu'il questionnait son alimentation, notamment qu'il avait accepté de faire un défi végétarien. À l'occasion d'une campagne qu'on avait lancée avec On est prêt sur les réseaux il y a quelque temps de ça. Sinon, j'ai jamais entendu les footballeurs se prononcer sur ces sujets. Et pourtant, je suis assez sensible à ça. Donc vraiment, il y a du taf encore. Ouais.
J'ai quand même l'impression que l'engagement environnemental est beaucoup plus fort sur les sports individuels, type ultra trail, ou en tout cas tous les sports en contact avec la nature, que dans les sports collectifs.
J'ai interviewé un gars, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il s'appelle Riyad Salem, il est champion paralympique. Il a été, lui, très actif au début avec le basket, puis ensuite la natation, maintenant il est au rugby. C'est un champion des champions. Hein. Et donc lui, tu vois, il a un engagement associatif parce que forcément, il lutte contre l'exclusion des personnes handicapées. Et donc du coup, il a une association qui travaille là-dessus et qui souhaite faire accepter la différence comme une richesse, et pas comme un fardeau pour la société. Et en plus, il a un engagement très très fort maintenant au niveau écologique. Pour moi, lui, tu vois, ça devrait être un des ambassadeurs du sport dont la France est fière. Super, Teddy Riner, bravo, génial. Mais en fait, Teddy Riner derrière, il vend des Ford et des Kinder, tu vois.
Alors, est-ce que le football est écolo?
Ben, étant donné que c'est le sport le plus regardé, suivi dans le monde, ben non. Du coup, son succès le rend de facto pas du tout écolo. Parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a de la consommation de ressources, d'électricité pour la télévision, de pétrole pour les déplacements et l'essence aller dans les stades. Et parce que tous les déplacements des joueurs, parce que tous les produits synthétiques utilisés pour le merchandising, donc non, non, par essence, absolument pas. Non.
Comment aujourd'hui, alors que les enjeux environnementaux et sociétaux jouent un rôle essentiel dans notre société, on peut continuer à organiser des Coupes du Monde au Qatar dans des stades climatisés?
Là, je crois que ça sera vraiment le paroxysme de l'irresponsabilité, je crois qu'on peut le dire comme ça. Mais non, mais ça montre à quel point, en fait, on n'est pas relié au rythme du vivant. Et donc, on se dit, pour des intérêts purement économiques, là, en fait, c'est la thune pour la thune par la thune, qui se dit, bon, bah oui, bien sûr, c'est une bonne idée de en plus, au niveau du calendrier sportif, de tout casser pour faire en sorte que, et on a eu cette expérience, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, d'un championnat d'athlétisme, hein. Il me semble, il y avait eu un championnat mondial d'athlétisme qui était aussi au Qatar. Et en fait, tu voyais les sportifs qui s'entraînaient dans leur chambre d'hôtel, tu voyais les gens qui étaient au bout de leur vie dès qu'ils faisaient un effort. C'est inhumain à tous les niveaux. C'est de la connerie, quoi.
Bon, essayons d'être un petit peu plus positif en essayant de trouver des solutions. Est-ce que tu connais aujourd'hui des clubs ou des joueurs qui mettent en place des initiatives environnementales et sociales pour rendre le système un petit peu plus viable? J'ai vu l'exemple l'autre jour de l'Olympique Lyonnais qui avait signé un partenariat avec le label Fair Play for Planet, qui est l'équivalent du label B Corp, qui permet d'évaluer l'engagement sociétal d'un club. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Fair Play for Planet, c'est un travail pédagogique qui est intéressant et ça me va bien. J'ai plutôt tendance à encourager toutes les initiatives parce qu'elles sont bienvenues. Et là, en l'occurrence, Julien Pierre, c'est un sportif qui est reconnu qui parle du coup à d'autres sportifs. Et donc, forcément, ce sera d'autant mieux accepté, visible sur la scène médiatique. Donc génial. Après, de temps en temps, il y a quelques bonnes nouvelles aussi dans ce milieu-là. Je me rappelle qu'il y avait un club de D2 anglais qui avait pas mal fait parler de lui. C'est les Forest Green Rovers. Et en Angleterre, du coup, il s'était présenté un peu. Bon, après, c'est un peu, il s'était autoproclamé comme le club le plus écolo de la planète. Parce que ils ont un stade en bois, ils ont des panneaux solaires, ils mettent des bouses de vache pour entretenir la pelouse, ils ont des menus véganes pour les joueurs. Donc ils avaient fait un peu cette démarche d'affichage avec forcément le maillot vert et tout ça et tout ça. Là aussi, ça fait partie un peu. C'est pour l'instant des symboles, mais ça montrait qu'il y avait quelque chose. Et puis il y avait aussi cette étude qui avait été un peu relayée dans la presse, qui a été faite par Greenpeace et qui montrait qu'en fait, bah du coup, plus on allait vers une ville polluée et plus bah, du coup, les performances sportives, elles allaient être affectées. Et forcément, ce qui se passe sur les terrains de foot, qui sont, eux, ben, ouverts aux quatre vents. Donc, forcément, il n'y a pas de bulle imperméable. Il n'y a rien qui est fermé. Et donc, en fait, du coup, il y avait des taux de dioxyde d'azote, si je me rappelle bien, qui étaient beaucoup trop élevés aux abords des terrains de foot des grandes villes. Donc, c'était Lyon, Marseille, Paris. Et forcément, ça aussi, ça impacte la qualité des performances des sportives.
Est-ce que le principal problème environnemental aujourd'hui dans le foot n'est pas les déplacements ?
Le déplacement en général, de toute manière, le déplacement en France, c'est le poste le plus émetteur de CO2. C'est près de 30%. Donc, tu as raison de pointer du doigt le déplacement. Les émissions carbone d'un club, si on prend le coût complet, hein, je te parle forcément des entraînements, mais aussi des matchs, il vient sans doute des supporters. Paradoxalement, quand tu dois déplacer 30 000 personnes pour aller voir un match une fois par semaine minimum, t'imagines que ces gens, ils viennent souvent en voiture à 1, 2, 3 personnes. Et donc, en fait, la mutualisation des déplacements, soit avec à minima le covoiturage, et donc du coup, ça aurait du sens que les clubs, ils organisent des plateformes de covoiturage spécifiques pour certains matchs, parce que du coup, bah, les supporters, ils vont ensemble, ça crée du lien et ça met dans l'ambiance, mais aussi du coup, de faire en sorte qu'il y ait un réseau de déplacements interurbains collectif qui soit beaucoup plus développé. Et après, un autre truc, je t'en parlais tout à l'heure, à mon avis, où il y a du taf, c'est pas tant l'alimentation, même si là, gaspillage alimentaire, peut-être alternative un peu végétarienne, ça vaut le coup, mais c'est dans le merchandising. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont générés par les clubs en merchandising et c'est fait en Thaïlande pour quelques euros. Le scandale du maillot de l'équipe de France avec la deuxième étoile, il avait beaucoup fait parler. C'était fait dans le nord de la Thaïlande où les gens sont payés 150 euros par mois. Et en gros, le maillot Nike avec la deuxième étoile, il coûtait à Nike, matière première et main d'œuvre, 3 balles. Et derrière, il est vendu, quoi, minimum 90 balles. C'est fou. C'est fou. Tu vois, ramener, t'es pas obligé de faire ça made in France, mais tu peux très bien le faire au Portugal, par exemple. C'est beaucoup plus local. Tu peux utiliser soit des matières bio, soit si c'est du synthétique recyclé. Et là aussi, tu vois, je pense qu'il y a un vrai effort à faire dans ce sens-là.
Est-ce que les premiers acteurs qui doivent se saisir de ce sujet-là, c'est pas les instances du football ? J'ai vu par exemple que la LFP, la Ligue de football professionnel, avait signé un partenariat avec la WWF, qui s'apparente quand même à du greenwashing. Est-ce que c'est pas à ces acteurs-là de prendre en main ces questions environnementales en premier ?
Je crois que tout le monde doit le faire et donc du coup, que ce soit les supporters qui se bougent et qui exigent plus d'engagement ou des produits plus engagés, que ce soit les clubs qui sentent l'intérêt grandissant des supporters et qui se mobilisent au début par intérêt de communication, peut-être à terme, bientôt pour recruter des joueurs qui sont sensibles à ces questions. Ou effectivement, la LFP qui dit « en vrai, nous on régule un peu tout ça et on exige qu'on aille dans ce sens-là parce qu'eux, ils ont une vision du long terme ». Tout doit être fait. Là, qui s'engage avec WWF, tant mieux, tu vois. Encore une fois, je suis pas là pour dire que c'est pas suffisant, mais allons-y vraiment à tous les niveaux. À WWF, ils sont pas réputés pour être les plus exigeants, mais je pense que ça peut être aussi une transition ou en tout cas une accélération en douceur, mais qui peut pas être suffisante. En gros, le simple fait de dire ok, on commence à y réfléchir, on va faire ça, c'est pas suffisant. Il faut littéralement tout revoir parce que de toute manière économiquement, là on le voit, les clubs ils sont en train d'atteindre une limite et donc c'est l'occasion de se réinventer, c'est l'occasion de baisser des coûts qui se sont envolés de manière déraisonnable et de valoriser d'autres choses.
Alors, on rentre dans la dernière partie de l'interview. Si tu devais choisir une règle à modifier ou à supprimer dans le jeu, dans le foot aujourd'hui, laquelle ce serait, sachant que ça peut être pas forcément une règle du jeu, mais ça peut être une règle au niveau des instances aussi.
Je sais pas, un classement du club le plus écolo, tu vois, est-ce que ça pourra peut-être impacter le goal average? Ça sera un choix fort, mais ça peut avoir de la gueule. Mais tu vois, pas que écolo, je pense vraiment engagé avec tout un tas d'indices sociétaux et écolo, solidaires, etc.
Et enfin, quel joueur verrais-tu faire ton métier?
J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et donc, tu vois, j'aurais tendance à voir, mais alors, tu vois, est-ce que c'est parce que du coup, les joueurs actuellement, quand ils jouent, ils n'osent pas prendre la parole? Je dis ça pourquoi? Parce que par exemple, Vicente Elizarazu ou Vikash Dorasso, ils prennent pas mal la parole sur les questions sociales, sur les questions du lien à la nature. Et donc, j'aurais tendance à dire que, tu vois, un peu un mélange de ces deux joueurs fait qu'aujourd'hui, ils s'engagent en politique, ils s'engagent au niveau associatif, ils portent un peu ces valeurs. Mais je retrouve pas ces discours-là dans les joueurs actuels. Donc, j'ai creusé, j'ai cherché, je me suis dit, bah, Griezmann qui a fait son coup avec Huawei, mais encore une fois, je me pose la question de savoir si c'est plus de une sorte de com un peu policé qu'autre chose que
Ouais,
de l'engagement réel.
Et en guise de conclusion, vu qu'on aime beaucoup ce que tu fais avec ton podcast 2030 Glorieuse, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et nous le pitcher?
En fait, ton invitation qui est trop sympa et je te remercie pour ça et qui me permet en fait de parler d'autres thématiques, enfin de rentrer sur les questions écologiques avec d'autres portes et la question du sport qui est universelle en plus, elle me fait me dire moi que j'ai encore envie d'interviewer plus de sportifs engagés. Donc, tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent mais si ils n'ont pas entendu parler de tel joueur qui se mobilise, de tel, je sais pas, coach. Qui accompagnent, enfin j'en sais rien, et qui sont vraiment positionnés sur ces sujets. Moi, ça m'intéresse parce que, comme je te le disais, j'interviewe des gens dans mon podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse et dans lequel, en fait, on essaye de voir le monde, non, pas on essaye, on réussit à voir le monde complètement différemment. Un monde qui, cette fois, aurait réussi à remettre la protection du vivant, des autres êtres humains, au cœur du projet de société, où on laisse un peu libre cours à l'optimisme, où on se dit, ouais, en fait, on peut à nouveau reprendre notre bonheur, décider de notre vie. C'est un podcast où j'emmène des gens à travers la porte des métiers originaux. Donc, un berger urbain, un artisan upcycler, plein de gens qui font des métiers actuellement qui ne sont pas très diffusés et qui, dans la société de demain, seront complètement normalisés. Et donc, voilà, si jamais tu as des gens qui écoutent le podcast et qui disent, mais si, dans le sport, il y a ces gens-là, il y a ces gens-là, moi, je suis hyper intéressé de pouvoir les interviewer parce que je pense que le sport, en fait, il a encore plus de place dans la société de demain qu'actuellement, mais différemment.